Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Grand Angle. En ces temps de crise financière, il est une question qui revient et qui nous interpelle, nous chrétiens. Est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Quel rôle avons-nous à jouer? Et surtout, comment l'éviter à l'avenir? Depuis plusieurs semaines, les soubresauts de la bourse, la faillite de banques et les sauvetages de la part des États font l'objet de beaucoup d'inquiétudes et de débats, bien sûr. Et il apparaît clairement que l'éthique, ou plutôt le manque d'éthique, est joué un rôle important dans cette crise. C'est pourquoi il nous a semblé opportun de poser les bases de la relation entre éthique et finance. Quel rôle l'éthique a-t-elle à jouer dans la finance? Est-ce qu'il est possible de moraliser le capitalisme, comme le souhaite le chef de l'État? Ces questions, nous allons nous les poser et tenter d'y répondre avec nos invités aujourd'hui. Alors, nous avons sur ce plateau en direct François Hernenwein. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef au quotidien La Croix, qui suit et analyse bien sûr les différentes étapes de cette crise financière depuis plusieurs semaines. Merci d'être avec nous. À vos côtés, le frère Henri Quinson. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes moine cistercien à Marseille et surtout il y a 10 ans vous étiez trader à Wall Street. Vous venez d'écrire le livre Moine des cités où vous racontez votre parcours. Également avec nous sur ce plateau le père Hugues Minguet. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes moine bénédictin, théologien, vous avez fondé une communauté, vous dirigez également l'Institut Sens et Croissance qui propose entre autres des séminaires aux cadres dirigeants pour donner du sens au travail. Et puis vous êtes auteur je crois du livre L'éthique ou le chaos. Voilà, merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis nous avons au téléphone depuis Lyon Bernard Laurent. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à l'EM Lyon. Vous avez dirigé l'unité économie, finance et gestion de cette école de commerce. Vous êtes également responsable du séminaire éthique de l'école. Et vous avez publié un livre l'an dernier intitulé « L'enseignement social de l'Église et l'économie de marché » aux éditions Parole et Silence. Et enfin, nous aurons tout à l'heure en ligne le père Étienne Perrault, qui est jésuite et économiste, qui est professeur à la faculté des sciences sociales et économiques de l'Institut catholique de Paris. Voilà, tout savoir donc sur l'éthique et la finance dans ce contexte de crise financière, c'est avec le quotidien La Croix et c'est tout de suite dans Grand Angle sur RCF.
Grand Angle pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Grand Angle pour mieux comprendre le rôle que peut jouer l'éthique dans la finance. Alors François Hernenwein, vous êtes rédacteur en chef à La Croix, vous avez du recul sur ces plusieurs semaines de crise boursière. On le sait, la crise est partie donc des subprimes, ces prêts accordés à des taux très élevés à des ménages américains non solvables. En quoi est-ce que c'était pas éthique? En quoi est-ce que l'éthique a été à l'origine de cette crise?
Ben, il suffit d'écrire le mécanisme assez platement. On prêtait à des gens dont on savait d'avance qu'ils auraient du mal à rembourser. Les banques se garantissaient dans ces prêts avec l'hypothèse, évidemment, qu'elles pourraient se payer sur la revente des maisons qu'elles récupéreraient dans le cas où les gens n'arriveraient pas à payer. Globalement, le système était pourri d'emblée, les pratiques commerciales étaient scandaleuses, les prix d'appel des prêts étaient parfois moins chers les deux ou trois premières années et pas très clairs sur la suite de l'opération. Ça reposait sur une idée sans doute fausse et qui a entraîné d'ailleurs la crise, que des arbres pouvaient monter jusqu'au ciel et que le prix de l'immobilier américain pouvait croître indéfiniment, alors que à partir du moment où la Réserve fédérale augmentait les taux d'intérêt, il était probable qu'il y aurait une tension sur le marché immobilier, de la même façon que quand l'activité économique était en baisse, on pouvait prévoir que les choses tourneraient mal. Donc, sans prétendre que tout était prévisible et tout mesurable avant que la crise se produise, puisque personne ne l'avait clairement annoncé, il y avait quand même un certain nombre d'indices qui montraient que les dispositifs mis en place c'était pas très bon, et la preuve c'est que les banques françaises se sont bien gardées de ce genre de pratique. Cette stratégie prudentielle avait quand même un peu de sens. Alors ça veut pas dire que ça n'a pas des conséquences sur les banques françaises ou l'état de l'économie en France, mais directement, il y avait quand même un arbitrage qui avait été déjà fait, et les risques pris aux États-Unis n'étaient pas proposés de la même manière aux épargnants ou aux gens qui souhaitaient accéder à la propriété en France.
Mais les banques américaines, elles y croyaient quand même, donc est-ce que c'était un manque d'éthique ou c'était plutôt de la bêtise de ne pas avoir pensé que ça s'écroulerait?
Ben, le manque d'éthique est une bêtise, donc tout ça est très cohérent.
Mais disons qu'elle ne savait pas que ça leur retomberait dessus, parce qu'au final, ça leur est retombé dessus.
Le calcul qu'elle faisait, c'est qu'elle pensait qu'elle se tirerait d'affaire avant tous les autres. Dans ce genre de pratique, c'est celui qui sort du jeu le premier qui a le moins de chances de payer la plus lourde facture. Donc c'était le calcul de tous ceux qui se lançaient dans ces opérations. Et puis après, il y a eu toutes les stratégies de camouflage dans la titrisation qui ont évité qu'on voit à quel point certains placements étaient pourris.
Alors la titrisation, expliquez-nous pour nos auditeurs en quoi ça consiste.
Moi, je pense qu'il y a de meilleurs experts que moi autour de cette table. En gros, ça consiste à mettre des crédits hypothécaires mélangés à d'autres titres plus solides, et ça permet de camoufler le fait que dans la part relative, ça permet de dissimuler le risque, en fait.
D'accord.
Et on a découvert qu'en fait, un certain nombre de titres étaient beaucoup plus pourris qu'ils n'en avaient l'air. Voilà.
Mmh. Alors Bernard Laurent, vous êtes professeur à l'EM Lyon. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de manque d'éthique dès le départ ?
Je le relativiserai sans doute un tout petit peu. Il est clair, ce que vient de dire François Lenvagne, dépeint très bien la dernière partie de la crise où les pratiques commerciales aux États-Unis ont été absolument déraisonnables. Mais si on revient très loin en arrière à l'origine des subprimes, donc les prêts risqués à des populations avec des revenus faibles, paradoxalement c'est pratiquement un objectif social, c'est une loi du milieu des années 70 qui avait vocation à favoriser l'accession à la propriété pour les ménages à faible revenu, à telle enseigne que le Conseil d'analyse économique, qui est une instance sérieuse, a rendu public cet été un rapport en pleine crise, alors cette fois-ci, non pas des subprimes, mais en pleine crise des marchés interbancaires, un rapport dans lequel elle en appelle au développement des crédits hypothécaires, exactement sur le modèle des États-Unis. Alors, je reviens sur ce que dit François Lenvagne, il a raison pour la dernière partie. Je crois que plus globalement, c'est effectivement ce que vous disiez tout à l'heure sur la titrisation qui conviendrait de s'interroger. Au-delà, là encore, je crois qu'il n'y a pas un vice consubstantiel au développement de ces produits, et ça a été pensé pour favoriser grandement le financement de l'économie mondiale.
Donc, ce que vous dites, c'est quand même une bonne chose d'encourager le crédit, donc la croissance. Effectivement, si on faisait plus aucun crédit, on n'avancerait plus.
Oui, je crois qu'il y a une espèce de confiance aveugle dans les mécanismes des marchés autorégulés. Un développement des techniques, de l'ingénierie financière qui a effectivement un petit peu dévoyé les raisons premières pour lesquelles on les avait pensées. Effectivement, la titrisation, c'est sortir du bilan d'une banque une partie de son actif qui est illiquide et le rendre liquide, donc favoriser ainsi grandement la possibilité de financer l'économie. Mais à partir du moment où vous le transformez en titre financier, vous permettez à des agents économiques de gagner de l'argent, et du coup la technique a un petit peu échappé par un endettement indéfini, échappé à ses promoteurs initiaux.
D'accord. Alors Père Hugues Minguet, vous êtes donc théologien, philosophe également. En philosophie, l'éthique, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors on pourrait dire de manière le mot éthique, il a une racine grecque qui est intéressante. Derrière le mot éthique, il y a le mot éthos, le comportement juste, et le mot ethos, la tenue de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une relation juste avec la matière, avec l'autre, et puis il y a aussi ce qu'on appelait autrefois la vertu, c'est-à-dire cette dimension de valeur qu'on porte en soi, toute cette dimension d'enracinement personnel. Et au fond, pour moi, l'éthique, elle se développe toujours sur quatre niveaux. D'abord, il y a le niveau technique et scientifique. On voit en l'occurrence qu'on a confié à des ingénieurs mathématiciens des belles équations mathématiques pour gagner de l'argent. Et donc, quand on est dans le niveau technique et scientifique, on doit bien sûr voir qu'est-ce qu'on met en place et comment cela va avoir de l'impact. Comment cela va avoir de l'impact sur les personnes qui vont être affectées par notre action. Donc il y a une grande responsabilité éthique déjà à ce niveau-là d'avoir de bons produits. Là, il y avait certainement une intention généreuse. On a vu que les techniques se sont révélées désastreuses puisqu'on a construit finalement sur du virtuel.
Et donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ils n'ont pas vraiment fait exprès.
Ça, je pense qu'il y a des gens qui boursicotent, il y a des gens qui font de l'argent, ils font leur métier, mais je crois qu'il y a une financiarisation, je crois, du monde qui a été tout à fait excessive. On y reviendra sans doute dans cette émission. Le deuxième niveau, c'est d'avoir le niveau législatif, le niveau de la loi. Il y a besoin de régulation, et je crois que la crise va amener à des régulations. Et puis, c'est tout le niveau du management. Il faut que on l'a vu par exemple avec l'affaire de la Société Générale, il semble qu'il y ait eu des défaillances au niveau des contrôles. Et donc il y a besoin de systèmes de contrôle interne, j'irai, dans les entreprises. Troisième niveau, c'est la qualité des comportements. Et la qualité des comportements, elle amène, quelque chose de très bénéfique quand elle est là, elle amène la confiance. Et quand il n'y a pas de confiance, c'est sans doute qu'il n'y a pas eu de qualité de comportement. Et puis finalement, il y a un quatrième niveau qui constitue l'éthique, qui est la qualité des finalités. Quand je travaille dans une entreprise, je travaille pour moi parce que je veux nourrir ma famille, je travaille pour mon institution, je veux que ma banque, par exemple, soit la meilleure banque gérée sur le marché, et puis la plus fidèle à ses clients, que sais-je, la plus performante. Et puis au fond, l'éthique, elle commence quand je travaille pour le service des personnes qui vont être affectées par mes décisions, connues ou inconnues, qui ont un pouvoir sur moi ou pas un pouvoir sur moi. Et dans la perspective chrétienne, on va, je pense plus loin, on s'intéresse au plus petit qui va être affecté. Parce qu'au fond, vous savez, quand les gens qui ont beaucoup d'argent en perdent la moitié, ils en ont encore beaucoup. Tandis que les petits qui vont être affectés parce que ça va amener du chômage, une récession, etc., ceux-là sont très très affectés, très affaiblis. Et donc je pense que toute décision au niveau chrétien invite à mettre le plus petit, le plus fragile au centre de nos décisions et de nos préoccupations. Alors là, on prend des bonnes décisions.
Mais alors, est-ce que le capitalisme peut être éthique? Enfin, dans toutes les bases que vous décrivez de l'éthique, est-ce que ça peut s'appliquer au capitalisme?
Oui, je pense que le capitalisme, si vous voulez, peut être éthique. Simplement, il y a une dérive, on l'a vu ces dernières années, financière. C'est-à-dire qu'autrefois, vous aviez en gros une répartition par tiers. Vous aviez un tiers pour gérer le travail, pour le salariat. Il y avait un tiers pour la rémunération du capital. Et puis un tiers qui était consacré à la recherche-développement. Et donc, on trouvait un équilibre, je dirais, à peu près satisfaisant. Il est normal qu'il y ait des gens qui risquent leur argent et une rémunération de leur capital. Mais il y a une dévalorisation de la valeur travail qui est certainement à remettre au
donc
centre.
Donc l'équilibre a été
Il y a un équilibre qui a été beaucoup fragilisé, donc qui est certainement à retrouver. Alors ça a amené beaucoup de conséquences négatives parce que cette financiarisation a amené, je crois, beaucoup de stress, beaucoup de démotivation. Vous savez, on ne se lève pas le matin pour le cours en bourse. Quand il est au fond, là on se lève un petit peu plus rapidement parce qu'il faut le faire remonter. Mais au fond, quand je travaille avec des entreprises, ce qui motive les gens, c'est leur métier, c'est de construire, c'est d'inventer, d'innover, de servir leurs clients. Voilà, c'est ça qui fait courir les personnes, c'est ça qui donne du sens au travail. Ouais. Et là, il y a certainement beaucoup à faire dans ce domaine pour retrouver des équilibres plus normaux, je dirais.
Alors justement, frère Henri Quinson, donc vous qui avez été trader, donc maintenant vous êtes moine cistercien, comment est-ce que vous voyez ce monde 10 ans après, maintenant que vous en êtes retiré, est-ce que ça vous désole? Est-ce que ça vous écœure ou est-ce que vous comprenez? Quel effet ça vous fait?
Moi, je trouve très intéressant la question qui était soulevée tout à l'heure, c'est-à-dire la crise, effectivement, sur le marché hypothécaire américain. C'est une crise qui va surtout toucher des ménages très très pauvres. Mm-hmm. Et moi, il se trouve que je suis un ancien trader, effectivement, qui gagnait bien sa vie autrefois. Et nous vivons dans une cité HLM de Marseille, dans les quartiers nord de Marseille. Et donc, je vois l'autre bout du circuit. Et très souvent, j'aide mes voisins à faire des rééchelonnements auprès de la Banque de France suite à des crédits à la consommation qui leur ont été accordés. Justement par des financiers qui, d'une certaine manière, savent qu'en dernier recours, même en prêtant à des RMistes insolvables, le contribuable, via la Banque de France, va payer ce rééchelonnement de la dette.
Oui, donc ça c'est sûr, c'est pas très éthique.
Voilà, donc il y a des lois qui ont cherché à mettre un terme à ce type de pratique, mais disons que par rapport à la problématique générale du capitalisme, moi je pense fondamentalement qu'on est dans des économies mixtes, donc il s'agit pas de peindre en noir un système qui en réalité à une intervention de l'État assez importante, qui est un mécanisme stabilisateur par rapport à la crise de 29, par exemple, actuellement. Je crois qu'aux États-Unis, l'État représente à peu près 30%, alors qu'en 29, c'était 10%. Donc on voit bien que c'est un système et également le système hypothécaire aux États-Unis. Il y avait deux grandes institutions pour le prêt hypothécaire qui devaient être surveillées par l'État. Et là, la responsabilité, me semble-t-il, bon, je suis citoyen aussi des États-Unis, donc je suis ça de plus près en période électorale. Mais là aussi, les politiques n'ont pas forcément joué le rôle de régulateur qu'ils auraient dû jouer. Donc c'est pas uniquement des questions privées contre public. Donc on voit que c'est des questions assez complexes et qu'en fait derrière ces questions complexes, il y a quand même l'être humain. Et l'être humain, et là on retrouve des choses très très essentielles. On a notre vieille liste des péchés capitaux. Dedans il y a l'avarice. C'est très pauvre comme mot par rapport à la question posée. C'est plus largement notre rapport à l'argent. Et donc derrière ces dérèglements, il y a des aspects techniques. Il y a des aspects structurels, il y a des aspects législatifs, mais il y a aussi les attitudes personnelles, individuelles, et l'ensemble des priorités d'une société. Donc, c'est des questions énormes.
Donc, tout s'est déréglé en même temps, à la fois les attitudes personnelles et les attitudes de l'État. Enfin, tout le monde a été amoral en même temps.
Alors, moi, mon expérience des marchés, j'ai vécu une crise en 1987, et j'ai suivi après, alors par contre, de très loin de ma cité HLM, l'éclatement de la bulle Internet. Et je me rappelle qu'à l'époque, un certain nombre de gens m'appelaient parce qu'ils savaient que j'étais anciennement dans le marché. Voilà, et ils me disaient, qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles théories sur finalement la valorisation des actions, est-ce que vraiment on est arrivé dans un âge nouveau, etc. Et je leur disais, écoutez, ça c'est vraiment le type de phénomène générationnel. Et dans cette crise, à mon avis, il y a un phénomène générationnel. Et le marché va se corriger non seulement avec des régulations peut-être supplémentaires ou plus précises, il va se réguler psychologiquement. C'est-à-dire que c'est des métiers dans lesquels on est très jeune. Moi, au bout de 4 ans sur les marchés, j'étais déjà presque un papy. Les gens sont très jeunes. Ils n'ont pas vécu des corrections de marché très importantes. Quand vous avez des corrections de marché qui vont aller jusqu'à 50% de la valeur d'un actif qui disparaît en quelques semaines, vous faites attention après ce que vous faites, parce que vous vous rendez compte qu'au final, vous avez peut-être perdu votre job. Donc là, je pense qu'il y a des mécanismes qui sont psychologiques et qui sont le propre aussi de ce système assez complexe dans lequel il y a différents acteurs. Certains vont agir de manière très égoïste, d'autres ont peut-être d'autres intentions, mais il y a une sanction de la réalité, et c'est ça qui me paraît important, c'est-à-dire que dans cette démarche d'éthique, il faut savoir que de toute façon, il y a une sanction de la réalité. Pour une démarche chrétienne, il me semble important de toujours dire, bon, pour les chrétiens, il ne s'agit pas d'une morale qui serait une espèce d'idéal éthéré. Non, c'est la réalité. L'évangile, c'est la réalité.
Tombe dessus.
Et on est rattrapé par la réalité.
François Hernenwein.
Oui, moi je trouve cette lecture d'une grande sagesse, mais peut-être aussi d'un empreinte d'un certain optimisme chrétien, mais intéressant. Mais je voudrais quand même, à propos de votre réflexion sur la maturité des traders ou des gens qui interviennent sur les marchés, à mon avis, ça dépasse la bonne volonté individuelle. Tout le système s'est développé ces dernières années par la gestion des banques centrales, notamment, dans une logique qui était d'aller de crise en crise, de gestion de crise par l'intermédiaire des banques centrales, de l'intervention de l'autorité publique aux États-Unis notamment. Et je pense qu'il serait pas très correct de faire croire que l'ensemble des acteurs économiques, y compris les traders que vous évoquiez tout à l'heure, et par exemple tirer la leçon de la bulle Internet pour poursuivre le développement de l'économie dans les années qui ont suivi. Sinon, on ne serait pas arrivé aux folies décrites tout à l'heure sur les crédits hypothécaires. Il y a, à mon avis, quelque chose de la culture de l'économie et de la domination du discours économique, une légitimation de l'économie par elle-même qui a provoqué les enchaînements et qui en provoquera de nouveaux. C'est pour ça que, même, on l'évoquera sans doute tout à l'heure, la question de la régulation, elle est intéressante, de la régulation des marchés financiers est une question intéressante, mais à mon avis, si on se contente de réfléchir à la régulation des marchés financiers sans se préoccuper du niveau de croissance souhaitable, sans se préoccuper des questions environnementales liées au développement de l'économie, sans se préoccuper de ces questions-là, on ira le temps qu'il faudra dans une relative sérénité, mais jusqu'à la prochaine crise.
Je suis très content qu'il y ait cet ajout, parce que je voudrais pas donner l'impression que c'est purement une affaire psychologique et tout va être réglé parce que les gens ont 10 ans de plus. C'est pas ça que je veux dire. Mais je pense que dans des logiques d'innovation, moi quand j'étais sur les marchés, c'était dans les années 80, moi je m'étais spécialisé dans les options de change, c'était quelque chose de nouveau. Et donc assez logiquement, quand on est dans des cycles d'innovation financière, il y a des problèmes nouveaux qui vont se poser sur le plan technique, pour les autorités de régulation, pour le management du risque, on a des éléments nouveaux qui sont forcément facteurs de crise qu'on n'avait pas forcément vu au départ. Et là, je pense que sur le marché hypothécaire américain, les questions étaient quand même assez spécifiques par rapport à, par exemple, la bulle Internet, et que sur ces questions spécifiques, donc la titrisation dont on a parlé tout à l'heure, le fait effectivement de gager pratiquement à 100% un prêt hypothécaire sur la valeur d'une maison pour des gens qui, sur des prêts par exemple à 35 ans, effectivement on a voulu faire quelque chose bien pour les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et, au final, ça n'a pas marché, parce que ça a peut-être été bien pendant 10 ans, mais ça n'a pas marché. Donc je pense qu'il y a quand même, du fait de l'innovation financière, il y a quand même des cycles d'apprentissage par rapport à ces instruments, dans lesquels à la fois les acteurs privés et les acteurs publics tirent des enseignements. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a quand même cet effet générationnel qui pose aussi d'autres problèmes plus larges, mais il me semble que c'est important de les prendre en compte.
Très bien, on va marquer une première pause musicale, et puis nous reprendrons cette conversation sur le thème de Grand Angle aujourd'hui, la finance et l'éthique. À tout de suite.
Missionaries in a foreign field. For some reason
c'était Gnarls Barclay, Who's Gonna Save My Soul.
Grand Angle, RCF, en partenariat avec Bayard Press.
Grand Angle, nous tentons de décortiquer le thème de l'éthique et de la finance dans ce contexte de crise financière et économique. Autour de cette table, François Hernenwein, rédacteur en chef au quotidien La Croix, Henri Quinson, qui est moine cistercien à Marseille et ancien trader, le père Hugues Minguet, théologien qui dirige l'Institut Sens et Croissance. Et puis nous avons toujours au téléphone depuis Lyon Bernard Laurent, professeur d'économie à l'EM Lyon et responsable du séminaire éthique de l'école. Alors justement, Bernard Laurent, vous êtes responsable d'un séminaire sur l'éthique, donc ça veut dire que dans les écoles de commerce, on sensibilise quand même un petit peu à l'éthique.
Oui, grandement, et on n'a pas attendu la crise pour le faire. Je voudrais juste néanmoins faire un tout petit retour en arrière pour...
Allez-y.
Mon soutien à des choses qui ont été dites. Effectivement, je crois que François Hernenwein a raison d'insister sur la promotion du discours économique aujourd'hui et qui s'est accompagné d'une idéologie quand même bien marquée, d'une espèce de libéralisme sans limite. En France, on dit l'ultralibéralisme, et qui a conduit à valoriser le marché sur toute forme d'organisation, le marché supérieur à toute autre forme d'organisation, qui a conduit à un recul assez spectaculaire des prérogatives de l'État, qui a du coup valorisé le pouvoir des actionnaires, la recherche du profit à tout prix. L'Albert Minguet a bien souligné qu'on avait une répartition de la valeur ajoutée qui s'opérait beaucoup plus à l'avantage des actionnaires aujourd'hui que des salariés, et au global qui a poussé sur la finance une espèce de démesure des rémunérations à la mesure des risques pris, et le plus les rémunérations étaient élevées, le plus les risques ont été importants, et dans une espèce d'emballement qui conduit à la catastrophe aujourd'hui. Vous serez étonné d'apprendre que encore pour 2007, pour toutes les banques d'affaires qui ont aujourd'hui disparu aux États-Unis, on distribuera des masses de bonus qui sont tout à fait monstrueuses, alors même que les banques ont aujourd'hui disparu. Je crois que c'est un aspect, alors peut-être aussi générationnel, pour parler comme le frère Henri, mais des jeunes qui se voyaient à la tête de rémunération sans fin. Alors si je fais le lien avec ce qu'on enseigne
avec
à l'école, on
ne
leur enseigne pas un bon management au regard de ce qui aurait été un mauvais management hier, mais on les sensibilise à la responsabilité qui est la leur dans l'exercice de chacun de leurs actes de la vie, et notamment de la vie des affaires.
Alors vous dites que vous le faisiez avant la crise, mais malheureusement ça n'a pas suffi alors.
Non, parce que je crois que c'est pas les jeunes qui sont seuls en cause, c'est pas la formation qu'on reçoit dans les écoles de management, mais c'est une idéologie globalement partagée qui fait que, y compris de la part des chefs d'entreprise bien responsables, qu'on met dans des bonnes écoles publiques françaises et qui dirigent aujourd'hui un certain nombre d'entreprises du CAC 40, l'idée que si on était bon et très bon, on devait recevoir ce qui nous était dû, et ce qui a conduit, je crois qu'on sous-estime à quel point ça a conduit à un recul de la fiscalité solidaire et un désengagement de l'État. Donc je crois que les jeunes ne sont pas seuls en cause dans ce qui arrive aujourd'hui.
Bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que les traders, donc ils reçoivent des primes au vu des risques qu'ils prennent. Mais alors si les risques sont... S'ils n'ont rien à perdre, effectivement, c'est peut-être logique qu'ils soient prêts à tout.
Pour revenir sur le titre de notre émission, c'est une vraie question d'éthique. C'est, comme le dit un certain nombre de spécialistes, hein, c'est pile je gagne, face je ne perds rien.
Ben voilà, donc tant qu'à faire.
Donc à cet égard, effectivement, on peut vraiment s'interroger sur la pratique des milieux financiers, au-delà encore une fois des rémunérations des élites dirigeantes qui ont été rarement sanctionnées par une baisse de leur rémunération, sanctionnée de leurs errements. Oui, c'est une très très belle question d'éthique.
François Hernenwein.
Oui, je me fais juste perroquet de choses que j'ai lues, j'ai pas vérifié dans le détail, mais il y a une notation qui me paraît importante sur la question des rémunérations. La logique qui présidait à ces rémunérations n'était pas l'offre sur le marché, c'était pas la libre l'offre et la demande qui permettait de fixer le niveau des rémunérations, mais des logiques de réseau entre gens solidaires. Et dans cette logique-là, même du point de vue de la bonne administration de l'économie, c'est une logique absurde. Les niveaux des rémunérations, c'était des renvois d'ascenseurs entre réseaux solidaires, et pas du tout le résultat de la sanction de l'offre et de la demande sur le marché, ce qui en termes économiques était d'ailleurs une absurdité.
Oui, c'est je me permets d'intervenir, c'est tout à fait juste. Hein. Pour les traders, c'est enfin pour les
différents.
Les financiers, c'est un petit peu différent parce qu'ils touchaient des bonus à la mesure des profits réalisés, et c'est un vrai pouce au crime puisque ça les a incités à faire des produits de plus en plus complexes, de prendre de plus en plus de risques, un temps de gagner de plus en plus d'argent pour leur employeur, hein, pour les banques. Vous avez des banques de 100 000 salariés où le profit n'était réalisé que par des équipes de moins de 1000 personnes. Donc oui, ça posait un sacré problème.
Très bien, merci beaucoup Bernard Laurent d'avoir pu être avec nous depuis Lyon. Je rappelle que vous êtes donc professeur d'économie à l'EM Lyon. Vous pouvez bien sûr continuer à nous écouter dans notre émission. Merci beaucoup.
Et je fais un petit salut fraternel à Hugues.
Bonjour Bernard.
Merci. Alors justement, père Hugues Minguet, vous qui dirigez l'Institut Sens et Croissance, comment votre institut agit pour ces questions d'éthique en petites touches?
Nous, on reçoit des gens très divers. On reçoit des actionnaires familiaux qui viennent réfléchir sur les conséquences justement de leurs placements financiers, dans un point de vue d'ailleurs intéressant de l'impact, je dirais, social de leurs décisions. On reçoit des institutionnels, par exemple, on forme des dirigeants de caisses nationales de sécurité sociale. Mmh. On forme aussi on accompagne des équipes de direction, d'entreprises en général relativement importantes, grandes entreprises et moyennes entreprises, sur un alignement, si vous voulez, entre une vision de l'homme, on pourrait dire une anthropologie, une éthique qui en découle, et puis un management performant qui peut porter cette éthique. Donc les gens qui viennent chez nous cherchent un petit peu ce recul. On s'adresse pas forcément à les croyants. 90% je crois des participants de nos séminaires sont des non-croyants, des croyants d'autres religions. Mm-hmm. Donc le MBA d'HEC, on reçoit actuellement près de 54 nationalités par an, donc on voit des gens du monde entier.
Donc l'éthique n'est pas qu'une question de chrétien.
Voilà, donc c'est une question, je crois, qui s'adresse à tout homme qui est libre et qui réfléchit à l'impact de ses décisions, donc à ses responsabilités. Je crois que c'est un thème majeur dans notre émission de ce soir, c'est comment on est responsable, qui paye. Alors je crois que c'est une question importante. Au fond, je crois qu'il y a 5 crises importantes. Le mot crise d'ailleurs est très intéressant, il vient du grec, d'un verbe grec kriseo, qui veut dire séparer, choisir, s'engager. Et le mot diakrisis, à travers la crise, c'est le mot discernement en français. C'est un grand mot monastique d'ailleurs, le discernement, la diakrisis.
Effectivement, voilà. Le rapport est...
Et donc c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'au fond on traverse toujours des difficultés, on est toujours... Vous savez, Saint Augustin disait il y a 16 siècles aux gens il y avait des gens qui regrettaient le bon temps, le temps passé,
bon vieux temps.
Le bon vieux temps de vos parents, mais il disait parce que vous n'étiez pas temps de vos parents, parce que déjà disaient la même chose. Et Saint Augustin rajoute les temps sont-ils mauvais, il dit soyons bons et les temps seront bons car nous sommes le temps. Et je trouve que c'est très fort comme phrase parce que ça veut dire que nous sommes responsables de... Nous sommes acteurs. Alors au fond il y a 5 grandes crises qui sont bien illustrés d'ailleurs, je trouve, par la crise actuelle. Il y a une première crise qui est le rapport au réel limité. En philosophie, ça s'appelle la contingence. Alors, si vous voulez, on a une sorte de toute puissance par rapport à la contingence. Alors, si on est en bioéthique, c'est cette cellule dont on peut faire tout et n'importe quoi, cet embryon congelé qui n'existe plus que par le regard que je porte sur lui, qui n'a plus de valeur en lui-même, vous voyez. Mmh. Donc, il y a une sorte de toute puissance qu'on retrouve en économie avec le marché roi, l'argent roi, et puis tout d'un coup, ça s'effondre. Alors, on a une sorte de contingence, vous voyez, de réel limité qui est soit exalté comme s'il était un absolu, et puis qui s'effondre dans le même temps. Donc on a tout un nouveau rapport à trouver avec la contingence. Ça s'appelle, je crois, le développement durable, mais il ne faut pas que ça soit simplement une expression. Vous savez, Enron avait une superbe charte éthique. C'est une des plus belles chartes éthiques qu'on a écrit dans l'histoire des entreprises. Donc on a besoin, si vous voulez, on le retrouve dans l'écologie, vous voyez, on retrouve cela en finance. Donc il y a tout ce problème au réel limité. Le deuxième niveau, c'est le niveau du sens. C'est le sens que je reçois. Et on est dans un monde qui est marqué par le chaos, par l'incertitude, par la complexité. Alors on le sait un petit peu depuis les camps scientifiques, Heisenberg, principe d'incertitude, tout le monde de la complexité. Finalement, ce monde que nous ont décrit les scientifiques il y a 50 ou 60 ans, eh bien maintenant nous arrive en réel parce qu'on est dans ce monde très complexe, très difficile à comprendre. Alors cette financiarisation à l'extrême a fait perte beaucoup de sens, je me disais tout à l'heure, oui, dans les entreprises. Et donc beaucoup de perte de motivation. Et puis au fond, il y a une troisième crise qui est celle de la parole. Je dis parole avec un grand P, c'est-à-dire parole et acte. Alors là, on a une sorte de schizophrénie entre les discours et puis les actes. Enron qui écrit des règles éthiques superbes et puis qui a des pratiques de voyous derrière. Donc là, au fond, c'est une crise des structures, des traditions, au sens latin, tradere, transmettre. La tradition, c'est pas une photocopie de l'histoire, c'est transmettre de manière vivante des valeurs. Et on a une crise des écoles, on a une crise des églises aussi, qui ont du mal à transmettre les valeurs, etc. Donc on attrait là parler de la société adolescentrique, donc des adolescents, des adultes qui ont pris le modèle de l'adolescent pour, je dirais, se situer. Et là, on a une crise de la parole. À qui, la crise financière, à qui peut-on se fier aujourd'hui? Qui a une parole juste? À qui doit-on croire? Vous voyez, c'est très difficile. Oui. Les gens qui nous ont parlé qui ont mis des chartes éthiques partout dans leurs entreprises, qui n'arrêtent pas de parler de valeurs.
Ça reste un peu du vent parfois.
On voit que c'était surtout des plaquettes publicitaires. Et puis, il y a une crise éthique, on en a parlé. Puis au fond, c'est une crise aussi spirituelle, cinquième crise, c'est une crise spirituelle, c'est-à-dire quelles sont nos valeurs communes, qu'est-ce que ça veut dire que vivre ensemble, qu'est-ce que ça veut dire que l'économie, est-ce que c'est simplement faire de l'argent, est-ce que c'est au service de l'homme. Vous voyez, c'est ces questions les plus profondes, au fond, qui sont posées. Alors, on peut se lamenter, mais en même temps, c'est une époque fabuleuse, et je rejoindrai le Zancenot qui, il y a quelques jours, écrivait dans Le Monde un article où il disait que la crise ouvrait un tas de possibles. Mais il a raison. C'est-à-dire que je crois que toute crise, elle nous permet de séparer les choses, de les distinguer. Il y a des choses qui vont vers la vie, des choses qui vont vers moins la vie. Il faut choisir, puis il faut s'engager. Donc c'est un appel à la responsabilité.
Donc rebondir à partir de toutes ces crises.
Et sur des questions, ces cinq points sont des questions très fondamentales pour la vie humaine. La manière dont on se situe par rapport au réel créé, pour un chrétien,
c'est
le sens, la parole, l'éthique, et puis au fond, qu'est-ce qu'on dit de l'homme, qu'est-ce qu'on dit de Dieu.
Voilà. Alors, Père Étienne Perrault, vous nous avez rejoint depuis Genève au téléphone. Vous êtes jésuite et économiste. Alors, dans un article dans la revue Études, vous parlez du principe de précaution qui pourrait être une solution pour moraliser un peu.
C'est une solution, c'est une attitude fondamentale de base.
Alors expliquez-nous un petit peu.
Qui consiste, comme déjà le pointé du doigt que le deuxième concile du Latran en 1139, c'est pas hier la veille, l'interdiction de l'arbalète et des balistes. Alors pourquoi interdire l'arbalète et les balistes et non pas le fléau d'armes et non pas le cimetière ou la flèche? Tout simplement parce que l'arbalète et les balistes envoyaient leurs armes tellement loin, leur jet tellement loin que celui qui utilisait ces instruments ne pouvait pas voir les conséquences de leur acte. Bon, c'est un principe de précaution de base, illustré il y a déjà fort longtemps, et qui consiste à dire, lorsque on ne maîtrise pas les conséquences de ses actes, eh bien, il est moralement douteux de les mettre en pratique. Alors, voilà le principe de base. Maintenant, la crise actuelle pose bien d'autres problèmes.
D'accord, mais alors, effectivement, un risque, prendre un risque, c'est quand même quelque chose qu'on fait quand on est trader ou quand on est sur le marché financier.
Mais quelque chose qu'on doit faire, parce que si on ne veut pas prendre de risque, eh bien, on ne fait rien.
Ah oui, c'est ça. Pas... Mais alors, comment un risque peut... pour moi, un risque, c'est quelque chose qui, si jamais ça marche pas, il y a quand même... ça peut mal se passer.
Ça, c'est le propre du risque. C'est souvent ce que oublient de dire les conseillers en placement financier quand ils disent « Ah oui, souscrivez à ce produit, c'est extraordinaire. Il vise 6%, 8%, 15% par an. » Simplement, ce qu'ils oublient de dire, c'est que pour viser un tel résultat, il prend des risques. Et le risque, vous n'êtes jamais sûr que ça va tomber du bon côté. Il se peut que ça tombe du mauvais côté.
Voilà, mais donc vous, ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas que le mauvais côté soit destructeur.
Oui, alors
le critère que je propose, enfin, c'est pas moi d'ailleurs, c'est toute, toute une tradition morale, consiste à dire il faut prendre des risques, mais en calculant ce que l'on peut perdre sans avoir, tout en conservant les moyens d'assumer ses responsabilités. Je vais vous donner un exemple très simple. Un père de famille. Bon, ben, il a des responsabilités en tant que père de famille, ou une mère de famille d'ailleurs. C'est la responsabilité d'éduquer ses enfants, de faire en sorte que la vie de famille se passe dans des conditions qui ne soient pas inhumaines. Bon, et pour cela, eh bien, il ne peut pas risquer, même avec l'espoir de gagner beaucoup, il ne peut pas risquer l'essentiel des avoirs de la famille sous prétexte que, oui, ça pourrait peut-être magnifiquement se passer. Bon, oui, mais ça peut aussi ne pas bien se passer. Et si le risque tombe du mauvais côté, eh bien, il faut qu'il puisse quand même...
retomber sur ses pattes et repartir.
Assumer ses responsabilités. C'est ça la limite. Donc, il faut prendre des risques, mais des risques qui ne remettent pas en question ce que les vieux moralistes appelaient le devoir d'État, qui est le premier devoir, le devoir qui est le vôtre dans la situation précise de votre responsabilité sociale et familiale.
Henri Quinson, donc moi, né ancien trader, je vous voyais réagir tout à l'heure.
Non, parce que en fait, le métier bancaire, précisément, une de ses composantes essentielles, c'est la gestion du risque, et tout ce qui vient d'être dit, ce sont des principes qui sont appliqués dans une salle des marchés, c'est-à-dire qu'un trader ou une équipe de traders ou un département vont être soumis à un certain nombre de limites dans leur prise de position, et donc ils ne peuvent pas les dépasser, et ces ratios sont précisément calculés sur ce principe qui consiste à ne pas engager l'existence même de l'institution qui les prend.
Mais ils n'ont pas été respectés pendant cette
crise. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment de telles entreprises qui normalement doivent au minimum gérer leur survie et si possible apporter de l'argent pour les actionnaires, comment se fait-il que malgré ces principes qui sont mis en œuvre par la plupart des banques, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à la crise actuelle? C'est à mon avis là justement qui est intéressant de à la fois de démonter les éléments techniques comme on l'a fait un peu rapidement au début, et à mon avis le rôle des innovations est extrêmement important puisque ça soulève justement des nouvelles problématiques de risque, et c'est difficile parfois de les évaluer à la fois pour l'entreprise elle-même ou pour la banque et puis aussi pour le système. Il y a un côté systémique et l'accumulation d'un certain nombre de risques peut poser pour les législateurs des questions nouvelles, y compris notamment l'incompréhension de ces instruments. Moi je me rappelle quand on commençait les options de change, on passait beaucoup de temps à éduquer les clients, les trésoriers, à ces nouveaux instruments, c'est-à-dire pourquoi utiliser une option de change par rapport à l'utilisation du marché à terme ou le marché au comptant, etc. Donc il y a à mon avis au cœur du système à la base des éléments d'éducation. Donc quand on parle d'éthique, je pense qu'il faut aussi parler d'éducation. Mmh. Et souvent les journalistes qui venaient nous interviewer le soir sur les mouvements de marché, ceux qui commençaient dans le métier étaient toujours très impressionnés que voilà, à 5 on gère 15 milliards de dollars, l'équivalent du budget de la Tunisie à l'époque. Et en fait, je leur disais, mais on n'est pas les maîtres du monde. Les maîtres du monde, ce sont nos parents et nos instituteurs qui nous ont appris à dire oui et à dire non. Parce que sur les marchés, quand vous vendez 100 millions de dollars et que le soir vous dites « Ah non, je ne les ai pas vendus », y a un problème.
Oui, ça a des conséquences.
Voilà, donc on sent bien qu'il y a un substrat d'éducation, un substrat moral qui est tellement évident pour la plupart des acteurs qui va de soi, mais on voit que dans les zones limites qui sont, à mon avis, correspondent largement à des innovations dans le système, précisément à la fois l'évaluation du risque est problématique, sa gestion, et puis il y a des comportements à mon avis qui sont générés parce que les gens en fait n'ont pas forcément vu très très loin et que donc tout d'un coup on se réveille avec une crise qui a des éléments nouveaux, parce que ce qui est important dans cette crise c'est qu'il y a quand même des éléments nouveaux. Ça c'est très important.
Alors éducation mais aussi sanctions, on en parlait tout à l'heure, parce que voilà, qui va payer l'addition s'il n'y a pas de sanctions derrière?
Voilà, un des grands problèmes à mes yeux dans cette crise, et habitant dans une cité avec des gens pauvres, je l'entends, les gens vont facilement tomber dans un discours qui est de toute façon tous les banquiers c'est tous des voleurs, etc. Ce n'est qu'un nouvel épisode dans cette longue histoire.
Après, on est content de trouver un bouc émissaire aussi.
Voilà, donc ça évite de réfléchir finalement au fond de la question, mais en attendant tout le monde a un banquier, tout le monde a besoin du système, et là c'est un peu le problème sur le plan justement éthique, c'est que qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup le système, la liquidité bancaire elle-même, et ça a été un des épisodes tout récemment, quand elle est mise à l'épreuve et que donc on est là dans un système qui bénéficie à tout le monde parce qu'on peut faire des transactions, hein, l'argent est un mauvais maître mais un bon serviteur, on a besoin de la monnaie, ça permet à ceux qui ont trop d'argent de le placer en banque, les banques de le prêter à ceux qui en ont besoin, etc. Et ça a un prix, le taux d'intérêt, donc fondamentalement cette activité est au service des autres.
Après, le système n'est pas mauvais en soi.
Voilà, c'est ça. Le problème c'est sa régulation et effectivement la sanction d'erreurs commises pour pas favoriser l'irresponsabilité, justement la prise inconsidérée de risques, c'est à mon avis là un élément très important de la crise actuelle. Pourquoi est-ce que les classes moyennes devraient renflouer un système? Elles sont obligées de le faire puisque le système, elles en bénéficient. Et pourquoi est-ce que, par exemple, le président d'une grande banque américaine déclare faillite son institution et lui part avec un parachute doré? Ça, c'est des questions que les gens posent et qui sont des bonnes
d'ailleurs
questions.
D'ailleurs, qu'on est en train de remettre en question.
Qui sont des sérieuses questions.
François Hernenwein.
Oui, c'est en forme de question mon intervention, mais autour de cette table, et l'intitulé même de l'émission, on posait la question éthique et finance. Je voudrais pas, enfin, ou j'aimerais avoir le sentiment des experts sur cette question. L'éthique, c'est un mode de régulation finalement tout à fait souhaitable et premier, à mon avis, dans le fonctionnement de ce type d'activité. Mais il me semble que la question de la sanction et la question donc du droit, là, pour le coup, reste aussi posée. C'est-à-dire, je postulerais à ma modeste place que... on ne peut pas attendre non plus, dans la nécessaire régulation annoncée après la crise qu'on vient de vivre, que le seul sursaut moral évitera les prochaines dérives. Et que la question qui est posée assez brutalement, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est quel droit on applique au fonctionnement de l'économie. Et j'entends déjà les cris d'orfraie sur le thème de « on retourne à une économie administrée ». À mon avis, la sagesse commanderait quand même que le législateur se préoccupe de quel encadrement par le droit de ce type d'activité au nom de l'intérêt général, puisqu'on voit aussi que dans les dérives actuelles, les gens qui se sauvent sont rares et les damnés sont nombreux. Et en termes de démocratie ou de fonctionnement des institutions, je pense que le droit a un rôle à jouer.
Étienne Perrault, vous qui êtes à Genève, qu'est-ce que vous pourrez répondre à ça?
Je suis tout à fait d'accord avec les deux intervenants précédents. Simplement, j'ajouterais qu'il y a des problèmes institutionnels qui ont joué. C'est-à-dire que... au nom de d'avantages théoriques, de souplesse du marché, de meilleure efficience des marchés, on a interconnecté des institutions qui, en fait, ne pratiquent pas tout à fait le même métier. Comme dans le milieu bancaire, les banques de dépôt et de prêt, et puis les banques d'affaires. Bon, on s'est aperçu que peu à peu, que les deux ont été mélangés. De même, l'assurance et la banque, c'est pas tout à fait. Ce sont des métiers de finance, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Et donc, il y a eu, j'allais dire, une espèce de, non pas de laisser aller, mais parce qu'on pensait que ça allait apporter de la souplesse et de l'efficacité, mais en même temps que la souplesse et l'efficacité, ça a augmenté les risques qui déjà ont été augmentés par le fait de la mondialisation.
Là, c'est un peu de l'innocence, en fait. On pensait que ça allait se marcher tout seul.
Non, ce que je pense, c'est que les financiers sont pas plus méchants que vous et moi. Hein. Mais simplement, ils sont dans un monde où leur rôle, qui est en fait de répartir les risques, ce rôle devient beaucoup plus central dans la mesure où les risques ont augmenté du fait de la mondialisation. Les risques augmentent du fait de la mondialisation, non pas tellement à cause des distances géographiques, mais parce que chacun se spécialisant dans une technique, dans un produit, eh bien, maîtrise moins son environnement, tout simplement. Et le propre du risque, et le propre de la finance, c'est justement de gérer, de répartir ces risques. Il y avait un président de la République française avant-guerre qui avait sorti cette phrase célèbre, c'était dans un discours de préau électoral, hein, il disait « La bourse, je la ferme, les banquiers, je les enferme ». Bon, mais en imaginant que ce beau programme soit réalisé, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que chaque producteur, chaque entreprise va être obligé d'assumer ses propres risques financiers. Et du coup, eh bien, les risques ne vont pas disparaître. Simplement, au lieu de les répartir entre de multiples actionnaires, au lieu de répartir votre patrimoine entre de multiples investissements, eh bien, vous serez coincé sur une entreprise ou sur une activité ou sur votre patrimoine propre. C'est pas un avantage, c'est un inconvénient. Ouais. Donc, le rôle des banques et de la finance m'apparaît tout à fait essentiel et positif. Simplement, le problème, c'est que pour gérer, pour répartir ces risques, eh bien, on a créé, bon, il y a un certain nombre d'instruments qui, a priori, sont excellents, comme par exemple les bourses qui sont des marchés publics, qui sont des marchés où les prix sont publics, et ça, c'est déjà un gros avantage. Et puis, on a créé les marchés à terme, on a créé les options, ce tout ça favorise la répartition et le choix des risques pour ceux qui veulent le prendre. Mais en même temps, ça favorise la spéculation de ceux qui jouent sur les variations des prix. Bon, et donc les deux faces vont ensemble. Alors tout le problème, c'est effectivement de trouver une régulation des institutions qui permettent, non pas de bloquer le système, mais qui permettent de le faire fonctionner avec, un peu moins d'à-coups.
Père Hugues-Minguet, on arrive à la fin de cette émission, à une dernière réflexion.
Je vais juste rebondir sur ce que vient de dire le père Perrault, et je partage en partie son analyse. Simplement, vous savez, Adam Smith croyait que c'était la main invisible qui régulait le marché. Il avait quand même eu la bonne idée de dire qu'il avait écrit un traité des vertus de l'entrepreneur, ce qui était un peu correctif. À mon sens, il avait oublié quelque chose, c'était le péché originel quand même. C'était la seule chose qu'il avait oublié, mais c'est un petit détail important. Ce qui fait que je crois qu'on ne peut pas gérer se fier à l'appétit des puissants pour réguler le marché. Je crois de fait, comme vous le disiez, il y a un besoin de régulation, il y a donc un besoin d'intervention du législateur pour définir les responsabilités, aussi les sanctions. Je suis juriste de formation, je crois qu'il y a aussi des sanctions qui doivent exister pour que la responsabilité soit effective et pas virtuelle.
Henri Quinson.
Oui, simplement, aussi souligner peut-être la dimension internationale de cette crise et l'inadaptation probablement des institutions elles-mêmes qui sont chargées de réguler ce marché.
Et on n'a pas parlé du rôle du FMI, bien sûr. Et
oui, alors donc, on a des problématiques un peu théardiennes, hein, dans notre tradition, on a des gens qui ont réfléchi à ça. La mondialisation, c'est pas quelque chose de nouveau, la noosphère, etc. Enfin bon, on va pas développer tout ça en deux minutes. Mais c'est très important de voir ce processus à travers les crises de construction positive d'un monde interconnecté et qui réclame des institutions qui puissent permettre effectivement que les appétits des plus puissants ne soient pas systématiquement agréés, mais qu'on puisse internationalement réguler les salaires, les déplacements de capitaux, si on voit que les opérations telles qu'elles sont faites aujourd'hui sont au détriment des plus démunis.
Et s'adapter aussi.
Voilà, donc la dimension internationale est très importante.
François Hernenwein, un dernier mot.
Pour abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit, avec cette petite remarque, encore une fois, sur la question de la volonté politique, l'intervention du législateur, etc. Moi, je suis très frappé, c'est pas directement encore que en lien avec ce qu'on vient de dire, mais c'est les discours sur les paradis fiscaux. On savait depuis longtemps que les paradis fiscaux n'étaient pas une chose formidable et que ça permettait de mélanger l'argent de la dissimulation fiscale et l'argent carrément plus noir des trafiquants tout genre. Mais, pardon, après le 11 septembre, j'avais été frappé par la volonté qui s'exprimait, en particulier aux États-Unis, de lutter contre les paradis fiscaux parce que on s'était aperçu très vite qu'ils avaient servi notamment à financer le terrorisme. Et donc il y avait un discours politique très 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 fort, relayé par les Européens, par l'OCDE, tout le monde s'y est mis. Et puis cette volonté, à mesure que la peur reculait, que la crainte se faisait moins forte, elle est tombée comme un soufflet. Et aujourd'hui, on a eu la reconstruction de ce même scénario, une volonté de lutter contre les paradis fiscaux, des discours très fermes des autorités françaises à l'égard du Luxembourg, des discours très fermes des autorités allemandes à l'égard de la Suisse ou du Liechtenstein. Mais au final, on ne sent pas encore clairement, même si des progrès sont enregistrés, je voudrais terminer par une note optimiste, même si des progrès sont enregistrés, on ne sent pas encore la volonté décisive d'en finir avec ces pratiques-là.
Très bien, ce sera notre dernier mot. Merci à vous tous d'avoir été présents ce soir. Merci à François Arnonwein, rédacteur en chef à La Croix, Henri Quinson, moine et ancien trader. Merci à Hugues Minguet, théologien et directeur de l'Institut Sens et Croissance. Et merci au père Étienne Perrault, jésuite, économiste, avec qui nous étions en ligne depuis Genève. Je renvoie nos auditeurs au quotidien La Croix, qui publie régulièrement des articles sur ce sujet. Vous pouvez suivre tout cela également sur le site internet www.la-croix.com. Je vous renvoie également au livre du père Hugues Minguet, L'éthique ou le chaos, et puis celui d'Henri Quinson, moine des cités, où vous racontez votre parcours depuis Wall Street jusqu'aux cités HLM de Marseille. Et enfin le livre de Bernard Laurent qui est intervenu en début d'émission, L'enseignement social de l'Église et l'économie de marché aux éditions Parole et Silence. Merci à Renaud Fluzin aux manettes et à Christiane Day qui m'a aidé à préparer cette émission. Très bonne semaine à tous.